Cube Radio.
OK, moi, je veux parler de quelque chose de très important, là.
T'es chaud?
Non. Mais là, oui, mais je parlerai pas de ma ménopause à chaque émission, parce qu'à un moment donné, les gens vont se tanner.
En pré.
Pré. En tout cas, mais je viens de dire que je veux pas en parler. OK, le bonheur est dans le pré. Not... Alors, je veux parler de ton col roulé, parce que je sais pas, là, es-tu comme dans la crise de la cinquantaine? Puis là, ça fait 2 semaines que tu portes des cols roulés. Je veux savoir, c'est quoi le nom de la fille?
Col roulé et veston. J'ai tout le temps aimé ça. J'ai toujours aimé ça.
Donc, ça veut dire que je te prive depuis 17 ans?
J'ai tout le temps, tu sais, une chemise veston, à un moment donné, tu veux changer. Là, j'ai pas acheté un char sport jaune. Là, je me suis pas fait tatouer ou poser une boucle d'oreille.
Tu portes un col roulé?
Un col roulé avec un veston et j'ai l'air d'un curé.
T'as l'air d'un crépus.
Moi, j'aime ça, mais c'est vrai que ça fait professeur de cégep.
Non, pas professeur de cégep, ça fait professeur de littérature à Columbia, Upper West Side, dans un film de Woody Allen.
Pierre Curzi dans Le déclin de l'Empire américain.
Exactement, qui se fait faire une branlette par Geneviève Rioux. Excusez-moi, mademoiselle, je vais jouer.
Alors, donc, c'est ça. Donc,
as-tu quelque chose à m'annoncer?
J'ai l'air vieux professeur d'université qui couche avec ses étudiants.
Ben, vieux, c'est parce que t'as quand même 58 ans, là.
Non, c'est vrai.
C'est pas le col roulé qui te fait paraître ton âge, là.
Tu le sais, je coupe pas les lunettes, mais bon. Ben, c'est le fun d'avoir un look différent. C'est tout.
Est-ce que tu trouves que c'est trop rouge?
Non, j'aime ça. C'est rouge vamp. J'aime ça du rouge assumé. J'aime ça quand c'est paf.
C'est parce que j'ai la peau tellement pâle, puis en plus, j'ai mis comme un haut blanc. J'avais l'air d'un fantôme. Il faut dire que dans 2 jours, c'est l'Halloween, alors ce serait approprié.
Ça fait années 40, c'est beau.
De toute façon, on reçoit un comédien qui a déjà joué une femme au théâtre, la Duchesse de Langeais dans Demain matin, Montréal matin, Laurent Paquin. Et il était très bon en femme, d'ailleurs.
Bon. Il était vraiment bon.
Alors, on pourrait comparer
lui
et moi.
Il était sur les talons hauts.
Oui, on pourrait comparer lui et moi nos couleurs de rouge à lèvres.
Avec des bas rasés et tout le truc.
Ah oui, il était absolument excellent.
Il était très bon.
Ouais. Alors, aujourd'hui, on reçoit Laurent Paquin et Stéphane E. Roy. Moi, ça me fait toujours drôle de prononcer cette affaire-là. Tu sais, comme Guy A. Lepage, Stéphane E. Roy.
Je pense que tu sais, Stéphane Roy doit en avoir beaucoup.
Tu sais, c'est comme s'il y avait un autre Richard Martineau. Hey, il voudrait surtout pas être identifié à toi.
J'ai déjà croisé à Trois-Rivières professeur qui s'appelait Richard Martineau, puis je me suis excusé.
Est-ce que c'était en 2012, puis c'était un carré rouge? Ben, puis,
c'était pas loin, puis il recevait des bêtises, puis tout ça. Oui, il recevait des bêtises,
drôle.
Tout le truc, là.
C'est absolument hilarant. Puis moi, je souhaite à personne non plus s'appeler Sophie Durocher puis d'être dans le milieu des médias. Non, on n'est pas quand même des parias, faut pas exagérer. Là.
Laurent Paquin et Stéphane Roy.
Oui.
OK, Stéphane Roy.
Oui, Stéphane Roy.
Longtemps participé à mon show à Cube.
Oui.
Et il était
super
incorrect.
Bon, d'ailleurs.
Il était très bon. Et tu sais, c'est un des rares artistes qui ose prendre des positions qui sont à l'encontre un peu de sa meute.
Mais il est plus à droite, faut
le dire. Il n'arrive pas vraiment avec le banc de poisson. Donc, moi, je le trouvais très courageux de venir. Et je ne sais pas s'il va être comme ça ou s'il il va être plus politiquement correct ce soir.
Mmh, ça m'étonnerait, mais c'est intéressant parce que Laurent Paquin, en ce moment, il tourne avec un spectacle qui s'appelle « Déplaire ». Alors, jusqu'à quel point Laurent Paquin est prêt, justement, lui, à déplaire, alors que la majorité des artistes, ils veulent plaire, justement. Ils veulent de l'amour. Écoute, moi, il y a plein de choses aussi dont j'ai envie de parler. Parce que... Ah, ben là, évidemment. Ben attends, parce qu'il faut que je range ma trousse de maquillage, alors. Bon, alors, qu'est-ce qu'on boit? Ah, c'est quoi ces verres-là?
Ben, c'est parce qu'on prend un petit verre avant. Ah, là, tu veux qu'on sorte nos...
Non, ils sont moches. Mais bon.
Le Bramito. Je sais pas. Tu lis-tu quelque chose, là?
Bramito della Sala. Un chardonnay qui vient de l'Ombrie.
Et c'est un choix de...
Patrick Désy, de Méchant Raisin.
Méchant Raisin. Bon. On va voir si c'est un bon choix. As-tu un party d'Halloween, toi, cette année?
Moi?
Ils nous ont demandé de nous déguiser à Cube. Et moi, tu sais, c'est quoi ma théorie, là? C'est après 14 ans, tu te déguises plus, là. Déguisement, c'est pour les enfants. Ils nous ont demandé de déguiser. Je sais pas en quoi je pourrais me déguiser. C'est difficile. Se déguiser en monstre. Les monstres, c'est des gens différents. C'est comme les handicapés. Il faut pas rire des handicapés. Frankenstein, c'est un greffé. Dracula, c'est un pauvre toxicomane qui est addict au sang. C'est pas de sa faute. Pauvre lui.
Faut que tu t'aiguises. Je t'entendais pas. J'étais en train de me, okay, de me remaquiller.
Un homme blanc hétérosexuel de 50 ans et plus.
Ah. Là, en toi, là, c'est finalement?
En moi.
Faut que je me... Donc, il faut que je se mette en col roulé.
Ou s'habiller en Trump. Ça, tout le monde va aimer ça.
Mais tu sais, tu disais tout à l'heure, s'habiller en homme hétérosexuel blanc de 50 ans. Comment s'habiller en Trump? L'idée, c'est pas que... Hey, salut!
Bonjour!
Hey, Bob! Justement, allô. On parlait des hommes blancs de 50
ans. Vous avez une sonnette, si on a une belle petite logo.
Comment tu lis ça?
Je ne sais pas.
C'est ce qu'on se demandait.
Faut que
c'est agressif.
Tu utilises ça, mais
il
faut que tu cries.
Oye! Oye, oye, bonne
chance.
Ça va?
Hey,
ça va?
Luca!
Bienvenue chez nous.
Ça fait plaisir. Écoute, je sais pas à quel point c'est prestigieux, mais c'est un vin que j'aime beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est ça qui est important.
Très gentil que vous soyez
puis
là.
Puis en plus, tu savais qu'on mangeait de l'italien.
Oui, oui, ben j'en ai un vin argentin, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que tu allais faire à
Buenos Aires? C'est pour le tournage d'une émission pour TV5 qui s'appelle Rire du monde.
Oui, oui.
C'est un endroit, une émission où on, à chaque semaine, un humoriste différent va dans un pays différent pour voir qu'est-ce qui fait rire les gens là-bas. Mm-hmm. Puis donc, moi, je m'intéressais à l'humour. Qu'est-ce qui fait rire les gens en Argentine? Donc, j'interviewais des comiques là-bas. J'ai rencontré un spécialiste de Kino, celui qui fait Mafalda.
Ben oui.
Celui qui fait Mafalda était trop malade, monsieur. Kino était trop malade. J'ai rencontré des caricaturistes et j'ai rencontré des humoristes.
Tu parles espagnol?
Non. Non.
Ouais, non, mais t'avais un traducteur,
un interprète. Ben pas zéro, je connais quelques mots, mais j'ai quand même relevé le défi de faire un numéro en espagnol. Hein? Dans un comedy club là-bas.
Ça se fonctionné?
Ben correct, oui, pas si pire. Mon accent est pas si mauvais.
C'est les punchs, là, l'accent tonique.
Ben oui, mais ça a l'air que je me débrouillais pas pire. Mais j'avais fait traduire, évidemment. Je parle
mais
pas
non,
assez
c'est
bien.
Sûr.
Je parle pas assez bien espagnol.
Una cerveza, por favor.
Oui, c'est ça. Mais.
Tu fais-tu du stand-up, toi?
Moi, j'en ai fait un peu,
des
mais.
One-man-show?
Ouais, mais tout seul, comme dans des petits clubs, juste parce que j'aime ça, là, mais c'est pas vraiment pas une volonté de carrière, là, de faire du stand-up. J'aime pas ça. J'aime pas le feeling d'être seul sur une scène, puis après d'être dans l'oche tout seul avec tes techniciens, ça me déprime au bout. Tu sais, d'habitude, on est deux, au théâtre, on est plusieurs, tu sais, puis qu'on discute. Ouais. Ah, ça a bien été quand tu m'as dit ça. Ouais, je suis un gars de gang. Avec les Bizarroids, c'était super cool.
Oui.
On était
oui.
Dans un groupe d'humour, les Bizarroids, on était quatre. Fait que là, ça allait bien. Mais tout seul, là, je l'ai fait comme 5-6 shows, puis ça me déprimait après, tu sais. Les soirées que ça allait très bien, c'était moins pire, mais les soirées, ça va moins bien.
OK, quand t'es en gang dans une pièce de théâtre, puis ça marche pas, tu peux tout le temps blâmer quelqu'un d'autre que toi.
Toi,
si ça fonctionne pas, c'est
le responsable. Oh, c'est ouais. Tu peux blâmer le technicien tant que tu veux, mais oui, il y a un petit côté des fois, il y a un petit côté déprimant. Il y a c'est paradoxal une soirée, mettons pour un humoriste. Mettons que ça marche là, vraiment bien. Là, tu sors de scène, t'as eu un standing, t'es heureux là. T'as l'impression que t'as donné le show de ta vie. Une demi-heure après, t'es dans ton char tout seul.
Ben oui, c'est ça qui est bizarre.
Tu roules pendant deux
Michel
heures.
Michel Louvain t'sais. Parlait de ça. J'ai entendu Michel Louvain parler de sa déprime après les shows toute seule en voiture.
Ouais, ouais.
Il dit qu'il avait le goût de se suicider. Ça rendait très, très déprimé.
Ben, parce que le
tu
lendemain.
Tu penses à tes enfants.
Ben, le lendemain, t'as des lunchs à faire, puis il faut que t'aies porté la petite à son atelier de ci, puis de ça.
Mais toi, t'es rendu à combien d'enfants, maintenant?
J'en ai deux.
J'en ai deux.
Ouais, juste deux.
Ben, parce
mon fils qui a 14 ans, ma fille a 7 ans.
Ben,
7
ans. Tu as vécu le trip, là, en région, tu sors le soir, tu vas au bar.
Ben, un peu, mais tu sais, j'ai toujours été un gars assez casanier, mais mais tout seul, c'est plate.
Mais je peux te jurer que les humoristes savent sortir.
En gang, oui, tout seul, non.
Non, c'est plate. Fou, là. Ils veulent toujours sortir un peu plus, les humoristes, tu sais.
Ouais.
J'ai fait des shows des fois avec Sylvain Larocque, avec Dominique Paquette, puis là, ça veut sortir, là. Tu sais, c'est comme dans deux autres.
Sortir tout seul, c'est un peu pathétique, là.
Ouais,
à notre âge.
Le fait d'être en gang, justement, il doit avoir envie de sortir. Moi, faire un show à 3, 4, 5, je pense qu'après, je dirais, hey, les gars, on va prendre une bière, on va manger, on va.
Mais l'art, c'est souvent ça, c'est des moments forts de notre existence, puis t'as le goût des fois dans.
Et je vais dire, là, demain matin, Montréal matin, t'étais tellement bon.
Merci,
Laurent, t'étais
merci.
Vraiment bon. Et moi, j'appartiens à la génération, j'ai vu les pièces à trembler, j'ai vu Claude Gay.
J'ai vu Claude Gay
pour la Duchesse, puis moi, c'était pas remplaçable. Tu touches pas à la Duchesse, c'est Claude Gay, tu m'as fait oublier Claude Gay.
Ah, ben merci.
Vraiment, là.
Tu portais très bien le barisé. Hein? Le petit talon et le rouge à lèvres, t'allais à merveille.
J'avais du fun à porter ça, moi. J'ai eu le guts de mettre... Je me rappelle plus, c'était-tu au Galet des Oliviers? J'ai mis mes talons hauts.
Hein?
de la Duchesse.
Oui.
En me disant, ça va être ça, moi, mon trademark. J'avais rien d'extraordinaire. Moi, je m'habille avec ce que je peux. T'sais, évidemment, avec mon casting, je peux pas porter n'importe quoi. T'sais. Fait que là, j'avais un veston qui me faisait bien. Puis là, je me dis, ça va être quoi mon accessoire
original?
Mon accessoire de gala. J'ai sorti mes talons hauts de la Duchesse.
Puis j'ai essayé de porter.
Oui, mais à la fin, j'étais écœuré en esti d'avoir des talons hauts.
Enfin, hey, ben oui. Un gars qui comprend ce qu'on vit.
Le dos, hein, il paraît que ça fait mal au dos.
Ben, c'est le dos, mais pour vrai, moi, c'est les pieds. Hey, moi, j'ai du poids à porter sur des...
Ouais, ça rentre comme un entonnoir là-dedans.
Ouais, c'est ça. À la fin, là, je marchais comme une vieille madame, là, tu sais, les jambes écartées. J'avais hâte de les enlever, mettons. Ouais.
Mais au bout d'une heure, t'as juste envie de mourir.
Ça fonctionne pas. Le concept c'est en haut fonctionne pas.
Et ça fonctionne pas.
Je sais pas qui invente.
Ben, ça fonctionne un certain temps.
Ouais.
Moi, dans le show, ben, je disais, non, mais je les tolère assez bien, mais j'ai réalisé par après que je les portais pendant 40 minutes, là, tu sais.
Ouais.
Je rentrais sur scène, puis après une demi-heure, mon personnage quitte la scène et il va se changer. Et il revient en homme dans la deuxième partie de la pièce.
Bon, c'est facile.
Fait que, oui, c'est ça, c'était pas si pire que ça. Mais quand j'ai eu à les porter une soirée complète, là, la fin, là, j'étais vraiment plus capable. C'était insupportable.
Et je me demandais si on va s'asseoir, hein? Non?
C'est assez raide comme transition, genre, là, mais là, pourquoi pas? Mais oui, c'est vrai, plus qu'on mange.
On parle seulement de nous,
Laurent, je te laisse.
Après, on attaque, là, pour vrai. Là.
Est-ce que tu veux que je t'aide, Laurent?
Ben, je vais y aller. Je vais commencer avec les crevettes et l'avocat.
OK, moi aussi, ça me tente trop.
Mais regarde, veux-tu que je te le tienne, le plat?
Ah, mais ça va.
C'est-tu vrai que c'est si épouvantable que ça, les auditions?
C'est l'horreur. Moi, je suis pourri en audition. J'ai rempli quelque chose grâce à une audition. J'aimais fondre en audition.
Quand tu parles à des acteurs, des actrices, il y a des fois où tu sens que la personne qui te passe en audition se contrefou complètement de toi.
C'est pour ça que Simon-Olivier Fecteau, il a fait en audition avec Simon. Parce que c'est vraiment ça, mais poussé à l'extrême. Mais il y a quand même une base. Veux-tu de la saucisse?
Oui, s'il te plaît.
Non, mais...
Pourrais-tu me le dire un peu plus fâché, ton « oui, s'il te plaît »
Oui, joue mieux. S'il te plaît.
Mais il y a une affaire étrange avec l'art, moi, je trouve. J'ai réfléchi beaucoup à cette histoire-là d'audition. Puis moi, quand je suis accepté dans un groupe, quand je me sens aimé dans un groupe, je suis bon. Quand je me sens pas aimé dans un groupe, quand je me sens en test, je suis pas bon.
Mais ça, c'est drôlement intéressant.
J'ai besoin d'être réconforté. Fait que donc, si on part en projet de théâtre, moi, faut que je m'assure que le casque, c'est le fun, tu sais, puis que je m'entends bien. Parce que si je m'entends pas bien avec des gens dans la production, puis je sens un regard méchant, je peux m'effondrer parce que je peux me douter de moi. Ça m'amène à douter très rapidement. Alors que quand je suis certain de ce que je fais, je m'assume, puis je le fais bien.
Puis tu sais jamais si tu fais l'audition pour rien. Parce que des fois, tu le sais qu'ils ont choisi déjà quelqu'un, puis qu'ils font passer des auditions parce qu'ils veulent pas te retourner chez vous, ou ils veulent justifier auprès du client. Des fois, c'est pour une publicité, ils vont dire au client, regardez ça, on a pris 50 comédiens, les meilleurs de l'UDA, mais ils ont déjà choisi un tel, puis les autres sont là pour rien finalement, juste pour faire plaisir à
Ben moi, j'ai eu la chance de travailler en pub, donc de voir les deux côtés de la médaille.
Comme réal.
Comme réal et comme auteur de pub.
Oui, c'est vrai, chez Cossette
pendant 6 ans, comme auteur là, à l'époque de Coke, tout ça, McDo Bell. J'en ai fait en crème. Puis des fois, on refusait des comédiens parce que le client n'aimait pas l'espace entre ses dents, mettons. T'sais.
Jesus Christ!
Là, tu dis, je dirais pas ça aux comédiens, mais lui, il va penser qu'on le refuse parce qu'il est pas bon, tu sais. Fait que là, ça te fait relativiser tout ça un petit peu. Là, tu te dis,
On sait que des fois, c'est juste une question de casting.
Oui.
L'affaire... Et qui on parlait, un réalisateur ici? À qui? Un réalisateur qui on parlait? Je me souviens plus.
Il disait
ça. Il dit, écoute, là, il arrive, puis tu le sais tout de suite en le regardant. Là, c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne.
Après c'est pas Jean-Claude Lard?
Puis ils sont obligés de parler puis de faire leur affaire, mais tu le sais, ton choix est déjà fait.
Mais c'était pas Jean-Claude Lard?
Non, c'était Martin Scorsese quand il est venu souper, l'autre jour.
Quand tu fais une blague que tu as travaillée pendant un an, que tu as rodée, que tu as fait devant ton miroir, devant ta blonde, devant ton chien, tu arrives devant le public et que ça fait pouette. Moi, là, je me sentirais... Moi, tu parlais tout à l'heure de t'effondrer. Moi, je m'effondrerais sur scène. Parce que t'as travaillé tellement fort, puis là, tu sais, c'est en direct, là. Les gens ne la rient pas.
Mais d'habitude, ils
descendent dans la salle.
Ils rodent tellement leur stock qu'il n'y a plus de blagues qui ne fonctionnent pas rendues en première. Ça, c'est une affaire qu'au théâtre, ils n'avaient pas compris,
quand on les rode, des fois, ils sont pas bonnes.
Ouais.
Mais à la première,
c'est pas mal tout du succès, là, assuré. Mais au théâtre, on pratique pendant...
je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois des fois, mais mettons 4 mois, en vase clos. Là, t'arrives devant une avant-première, une première médiatique. Oh, ça n'a aucun sens.
T'as une
devant quelques invités. La veille, après ouais. ça, t'as la première, ça n'avait aucun sens. Moi, c'est là que j'ai...
Excuse-moi, l'avant-première, c'est devant qui? Des amis? Devant
des amis, des invités de la prod. Puis là, puis le lendemain, c'est la première. Moi, j'ai parti ça avec des amis, avec Mars et Vénus, Me, Myself, plein de pièces que j'ai montées, où là, j'ai dit, on va roder, puis on va arriver sur Montréal plus tard, tu sais. Ah. On va roder comme les humoristes, puis on va couper. C'est une création, tu sais, c'est une création humoristique. Fait qu'on coupe ce qui va pas bien dans la pièce, on réarrange jusqu'à temps que ouais. la pièce va comme on veut. Puis là, on fait une première à Montréal. Comme
ouais, mais ça, c'est pas un peu insultant pour les gens à l'extérieur de Montréal de dire, OK, vous êtes comme la Ligue mineure, puis on vous utilise comme cobaye, puis après, les affaires sérieuses, ça va se passer à Montréal. Puis vous, c'est comme un petit test en laboratoire.
À la limite, je dirais que non, c'est l'inverse même.
Ah oui?
Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans certains cas, j'ai l'impression que les gens voient ça comme on est les seuls à voir certains gags. En humour, les rodages, il y a ce côté-là. Les gens le savent que c'est du rodage aussi. En humour, généralement, les billets sont moins chers parce que c'est du rodage. Puis les gens l'apprécient parce que sans le rodage, on n'irait pas nécessairement jouer là.
Ah.
Fait qu'à la limite, les gens se disent, ben les gens viennent roder, on sait, on est une plus petite salle.
Est-ce qu'ils comprennent que ça, c'est un show qui est en work in progress?
Oui, souvent on le dit, souvent c'est écrit sur le poster, dépendamment. Des fois,
on n'a même pas trouvé le titre du
show, fait qu'on n'a pas le choix, on fait un poster qu'on marque rodage.
Tu changes le titre du show parce que Martin Petit, c'était ça, son titre était 8000 fois trop compliqué. Mm-hmm. C'était comme 100 000, je sais pas quoi. Il y avait comme une espèce de chiffre que personne ne se souvenait de.
Tourner à 100 000 à l'heure, en tout cas, c'est la Terre qui tourne.
Je pense que c'était la vitesse de la rotation de la Terre.
La Terre sur elle-même. Puis finalement, il a appelé ça pyromane, quand même plus simple.
Ben oui, parce que quand faut que tu expliques ton titre tout le temps. Déjà qu'en émoi, il faut l'expliquer pareil tout le temps. Mais là, en plus, il faut
que tu expliques. Mais toi, ton titre déplaire, est-ce qu'il faut que tu l'expliques aussi?
Ben oui,
tout le temps
un peu quand même. Mais c'est normal. C'est souvent, généralement, même la première question. Déplaire. Pourquoi te déplaire? Ah, Laurent, est-ce que tu as envie de déplaire? Laurent, vas-tu nous déplaire?
À chaque fois, ça me fait de rire des journalistes qui posent tout le temps les mêmes questions.
Il y a des questions. Ben, n'importe qui fait beaucoup d'entrevues. Ça, c'est un
défi. C'est normal, ça, on s'attend.
Quand tu fais, mettons, une tournée.
T'as une cassette, là. Tu comprends le politicien.
Tu fais 14 entrevues dans la journée, puis la même question revient 12 fois, mettons.
Là, tu comprends les politiciens.
Mais tu peux pas blâmer la personne. Elle sait pas qu'il y a 11 personnes qui ont posé la question. Fait que toi, t'essayes d'être naturel.
Moi, comme journaliste, puis je suis sûre que Richard, c'est pareil, le défi qu'on se donne, c'est d'arriver avec une question où on voit dans les yeux de l'invité qui se dit, hey, tabarnouche, je l'avais pas entendu, celle-là.
Ben, ça fait du bien de temps en temps,
c'est pas évident.
Non, c'est pas évident.
Je me souviens pas sur quelle occasion. Sais-tu quand, pour les francs-tireurs ou un livre, parce que j'ai écrit 3 livres, c'est peut-tu, mais en tout cas, j'avais fait comme une promo. Puis là, j'étais l'autre bord, puis les journalistes me posaient question et je pouvais deviner exactement avant quelle question dans l'ordre.
Ça, c'est quand ils ont lu le livre.
Je me disais, tabarnouche, que quand même, là, c'est une job de paresseux, mais en même temps, tu sais, c'est normal, il y a des questions, tu sais, certains déplaires.
Il y a des évidences.
C'est sûr.
Il y a des trucs inévitables.
Pourquoi on appelle ça déplaire?
Ben oui.
Surtout le texte d'avant-promo, là, le texte, le papier d'avant-show, là, qui sort, c'est souvent les mêmes questions. Mais moi, ce qui m'offusque beaucoup, c'est le travail de critique quand il est mal fait. Ça me fait capoter.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais en fait, je trouve que nous autres, on travaille longtemps sur un show. Des fois, on travaille des années et des années. Puis quand le critique qui arrive fait des généralités, n'a pas d'expérience là-dedans, connaît rien. Moi, je dis, dans ce temps-là, tu fais un vox pop dehors puis demande aux gens si ils ont aimé ça, si c'est ça l'idée. Sinon, je veux quelqu'un qui va mettre ça en perspective dans le contexte de l'humour actuel, dans le contexte du théâtre, dans le contexte, qui va remettre ça en perspective. À quelque part, il va aiguiller le spectateur et non pas donner son opinion personnelle sur lui, qu'est-ce qu'il pense de ça. C'est pas ça, pour moi,
un critique. Ce que je trouve particulier, je sais pas, j'allais dire au Québec, mais en même temps, je sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, mais tu sais, t'enverras jamais un critique d'opéra, quelqu'un critique un opéra, quelqu'un qui aime pas l'opéra.
C'est ça.
Ben oui.
Alors qu'il y a des gens qui font des critiques de shows d'humour ou de galas d'humour, et tu le sais qu'ils aiment pas l'humour.
Puis là, il y a des styles. Bon,
il se fait violence, et il essaie de, mais.
Puis ça, c'est une autre affaire, hein. Ça nous est tous arrivé de quelqu'un te conseille un chef-d'œuvre de la littérature, tu lis une soirée, ça rentre pas, tu détestes ça. Un mois plus tard, tu reprends le même livre, t'embarques dedans. Hein, ça arrive. Oui, bon, oui, en or, c'est la même chose. Nous autres, tu viens voir un show, tu filais pas cette soirée-là. Ça se peut que tu catches pas tout, mais il faut que tu relativises.
La première fois, j'ai vu Blue Velvet de David Lynch. Détester ce film-là, mais détester. Et maintenant, c'est un de mes 10 films préférés. Moi, je l'ai revu après, puis OK, là, j'ai compris. Puis là, OK, c'est ça, ce film-là.
Il y a des films qui sentent leur qualité d'être insupportable. Puis à un moment donné, quand t'embarques, tu comprends quelque chose. Puis
tu vieillis aussi. Tu vieillis, puis des choses que t'avais pas vues. Mettons, tu l'as vu à 15 ans ou à 20 ans, tu le revois à 35 ans, puis tu comprends quelque chose que tu n'avais pas compris à 20 ans.
C'est dur, c'est dur un film, hein, parce que c'est l'organisation de plein d'éléments qui mène à un film. Fait que t'as beau avoir un talent pur seul, là, si t'organises pas tous les éléments autour, le film arrive pas. C'est épuisant au Québec, particulièrement.
Et toi, t'es en train d'en faire un?
Oui, mais c'est épuisant.
C'est dur d'avoir de l'argent.
Ah oui, parce qu'on
t'es épuisé avant de commencer.
T'es épuisé, t'es écœuré du film.
T'as tellement
tu commences à le tourner, t'es écœuré du film. Tu sais.
Fait 30 fois que tu le réécris parce qu'il y a un rond de cuir qui t'a dit que...
Ah, puis là, c'est l'affaire des filles. Il faut augmenter le rôle des femmes d'un film.
Non,
mais t'as ça.
Attends, moi, je commence. Je fais un film, deux gars sur un pédalo. Huit clos, OK? C'est ça l'histoire. Là, je vais dans un scoop, là, j'espère ça. Puis après ça, on me dit, mais c'est le fun qu'on voit un petit peu les filles. On écrit un petit peu des filles parce qu'ils sont dans un resort. Ouais. On leur donne des répliques. Écoute ça. Après ça, tu fais dire, ah, mais les filles, le rôle des filles, il a de l'air un peu désincarné. Il n'y a pas de l'air à faire partie du.
Jesus non,
parce que c'était pas là au début. Ben, tu pourrais-tu l'amplifier? Là, tu l'amplifies. Ouais, mais pas assez amplifié. Pas... Finalement, c'est pas un film de deux gars sur un pédalo, tu sais, c'est rendu. Mais c'est souvent ça, c'est souvent ça. Moi, j'en reviens pas de notre système. Mais j'en parle aux réalisateurs, puis ils me disent tout, parce que j'ai travaillé sur Neuf avec beaucoup de réalisateurs de talent, là, Ricardo Trogé, Luc Picard,
ça.
Puis ils me disent tout, non, le système va bien, parce qu'ils sont financés, les maudits, tu sais. Le système va bien. Mais quand je leur parle de ça, je leur dis, c'est drôle que l'État décide de ce qu'on va voir.
Et moi, je trouve ça hallucinant.
C'est une censure.
Toi, tu dis que tu trouves ça drôle.
Ben, drôle.
Je trouve pas ça drôle. Je suis une femme.
Je trouve ça déprimant, tu sais. Déprimant, parce que je me dis, l'URSS faisait ça, là, à l'époque. T'sais, ils censuraient les films qu'ils disaient pas comme le gouvernement. Nous, on a ça, là. C'est-à-dire que là, si tu dis pas ce que le gouvernement veut mettre en onde ou sur les écrans, ben, ils financeront pas ton film.
Et là, je vais te mettre en tabarnak avec raison. Tu vas être fâché contre moi. Tu vas être fâché contre moi, mais tu sais, on fait ce qu'on peut pour vivre. J'ai étudié en cinéma à Concordia. J'ai commencé à écrire.
Oui, je sais ce que tu veux dire.
J'ai commencé à écrire à séquence des magazines de cinéma, séquence 24 images, tout ça. Puis tu étais payé 35$ le texte et tout ça. Et à un moment donné, Téléfilm m'appelle pour juger les scénarios. J'avais jamais écrit un scénario de ma vie. J'avais jamais réalisé de ma vie. J'avais écrit des critiques de cinéma. Et là, ils m'envoyaient des scénarios. Et là, moi, j'écrivais. Puis j'étais bien payé pour la première fois de ma vie à faire quelque chose. J'étais bien content, j'acceptais ça. Mais donc, il y a plein de scénarios qui sont passés entre mes mains. Puis tu sais, un scénario, juger d'un film à partir d'un scénario.
Très
là,
dur.
C'est très dur, là. Puis moi, j'avais pas cette.
Ben, bon, lire quelque chose puis l'entendre, c'est tellement pas pareil.
Ben, t'as tellement raison.
Et donc, j'écrivais des rapports, puis mettons. Oui, j'aimais ça, ou non, vous devriez pas mettre une scène là-dedans, dans ce film-là. J'étais jeune, là. J'avais début vingtaine.
Ils font encore ça comme ça.
T'sais, j'avais début vingtaine, puis j'ai appris qu'on était trois, là. Trois par chaque film, on était trois. Mais je faisais partie des gens qui avaient comme droit de vie ou mort, entre guillemets, sur le film. Alors, j'avais aucune expérience.
Mais je trouve ça hilarant, Stéphane, ce que tu racontes, ces deux.
Tu sais, ça fait. Non, attends, mais.
Ça me fait capoter.
Là, il capote, là.
Non, mais je capote parce que dernièrement, j'ai eu. On a vu un nom de quelqu'un, puis là, on a dit qui a analysé le film, il est tombé sur la table, là, de même. Puis là, on a cherché c'était qui, puis c'est personne. C'est quelqu'un qui a produit un film d'horreur, Nobody. Puis là, tu dis, OK, c'est lui qui... Là, tu capotes, tu sais. Puis moi, il y a une affaire que je trouve...
Les gens qui seraient les meilleurs pour juger de ça, ils peuvent-tu faire ce job-là? Ils veulent pas la faire.
Non, ils veulent pas parce qu'ils travaillent.
Denis Arcand va pas se mettre à décider qui fait les films.
Puis l'autre affaire, tu dis, tu l'as pas
entendu. Il est trop occupé à essayer de faire des films.
Moi, j'ai dit à Ramonet, à Sodec puis à Téléfilm, j'aurais dit... C'est absurde, parce que nous autres, on travaille des textes, OK? Moi, j'ai fait jouer devant le public, OK? Ouais. Pédalo, on l'a joué, on a testé les gangs, tout ça. Vous allez dire oui sur un texte qui n'a jamais été dit, lu. Dîner de con, ça fait des entrées en comédie, tu sais. La comédie, c'est dur à lire. Mais là, tu l'as testé, Dîner de con, c'est une pièce qui a fonctionné. Je dis, pourquoi vous financez pas des fois des textes qui ont fait leur preuve? tu sais, en théâtre, entre autres, en théâtre d'humour. Ouais. Parce que l'humour, tu sais, moi, je lis un texte d'humour, toi, tu lis un texte d'humour, on a deux. C'est très dur, t'as pas le ton, t'as pas le rythme des comédiens, tout ça.
Écoute, moi, je sens de l'humour, puis écouter. Lire un texte d'humour, je suis pas bon pour te dire qu'est-ce qui est... Si ça va rire, vraiment, j'ai pas... pour moi, c'est pour ça qu'on rôde aussi, d'ailleurs. Ouais. Hein? Moi, je lis un texte de quelqu'un d'autre, je peux pas dire où est-ce que ça va rire. Je peux dire, ben moi, j'aime ça, je trouve ça intelligent. J'aime ton idée ici, j'aime bien... mais ça va-tu rire? Je suis pas bon pour dire ça. Fait que t'imagines, il fallait que je décide, moi, ton show d'humour, t'as pas le droit de le faire.
Des fois, on est les premiers surpris. Hein? On dit ça, c'est un gag, c'est sûr. Ça ouais. l'est pas. Ouais. T'arrives, c'est l'inverse.
Au public de décider.
Je t'ai payé 150$ par le rapport que j'écrivais. Moi, j'étais bien content. Pour moi, c'est une fortune à l'époque. Là.
Colin,
c'est que, beaucoup, c'était le fun. C'est à peu près ça, 150, quoi, je t'ai payé.
C'était un cash sur une maison, ça, à l'époque.
Ben, Richard est plus vieux qu'il a l'air.
Tout ça en couleur, c'est...
Il y a une émission très populaire à la télé, ça s'appelle La Voix. Ils font des auditions à l'aveugle. Non, mais ils écoutent quelqu'un chanter, puis ils n'ont aucune idée de la couleur de sa peau, ils ne savent pas si la personne est handicapée, ils ne savent pas si c'est quelqu'un qui connaît, peu importe. Ils ont le dos tourné. Alors, faisons des choix pour des scénarios. T'enlèves le nom de la personne qui a écrit le scénario. On sait-tu, elle s'appelle-tu Julie? Elle s'appelle-tu Stéphane? Ou c'est quelqu'un qui est non-binaire? C'est une personne transgenre?
On sait pas le sexe.
Écoute, lis le scénario et dis-moi, c'est-tu bon ou c'est pas bon?
Il faudrait le faire lire par des comédiens live pour entendre le ton du film.
Oui, mais...
Entendre la musique du film, tout à fait.
La musique du film.
En fait, tous les scénarios de film devraient être au moins joués un peu devant les personnes qui le lisent.
Ouais.
Parce que c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont des bons lecteurs, j'y crois ça, mais je crois quand même que t'as jamais une idée complète si t'as pas entendu... Les gens, moi, j'ai écrit une série web. On est à un autre niveau, là. C'est une petite série web. Mais j'ai écrit un sketch, puis la dame qui lisait mon texte me l'a retourné en disant, c'est vraiment pas clair, on comprend rien de ce sketch-là, là. Parce que c'est un sketch qui est beaucoup basé sur la confusion. Ben, c'est sûr que tu comprends pas, là. Moi aussi, je le lis, là, puis c'est pas clair, mais on va te le faire. Fait qu'on s'est filmé, moi et l'actrice avec qui je faisais le sketch, on s'est filmé avec un iPhone.
Très drôle.
Et là, on l'a envoyé, puis elle a fait « OK, ah ben oui, c'est ça. »
C'est ça.
Les Monty Python disaient...
Il n'y a rien comme de le voir ou de l'entendre.
Il y a même un sketch où il répète tout le temps le même mot. Tu le veux-tu, tu le veux-tu? « Do you want it? » Quelque chose de même. Puis là, il donnait un coup de poisson d'en face et tout ça. Les Monty Python, non, c'était dans la série Monty Python, puis il disait...
Ça ressemble à Clinic of Argument, là, où ça se tient.
Quand tu présentes ça, tu te dis, ben là, ça fait 8 fois qu'il dit la même affaire, c'est plate. Oui, mais c'est ça, ça va être drôle, à un moment donné, parce qu'on va le jouer. Là, ce que je joue devant toi, c'est organique, ça, là, c'est drôle. Il répète tout le temps. Puis effectivement, c'est un des sketchs les plus drôles des Monty Python. Mais quand ils lisaient, ben là, c'était dur à vendre aux producteurs, mais vu qu'eux autres étaient en gang, ben là, ils ont réussi à le faire passer.
Parce que si le personnage, ça fait 14 fois de fil qu'il dit non, la personne qui lit le texte, il voit juste non, 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 non. Mais dans le sketch des Monty Python, t'as le gars qui va faire non, non. À un moment donné, il prend une pause. Non. Là, tu ris
parce que le rythme a changé.
Parce que le rythme a été cassé.
Ben, l'humour, c'est de la delivery. Là. Ben,
c'est ça, beaucoup.
C'est la livraison. Tellement. La comparaison que je ferais, c'est comme ouvre un livre de recettes puis lis la recette.
Ouais.
Ben, tu lis la recette.
C'est une bonne comparaison.
C'est pas la même chose que manger le calice de gâteau.
Ça disait. Moi, j'ai lu le dernier Ricardo, j'étais bourré à la fin.
C'est de résumer toute l'idée.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Moi, je me souviens de tous les numéros presque par cœur.
Ah oui, my dit. God.
Mais moi, je suis un fan de Laurent.
J'avais fait des numéros dans le même temps. Pas sur la, mais la condition non, mais masculine.
Tu parlais de, d'une publicité où la fille jetait le gars dans la valise, le fermait, puis tu sais-tu cette publicité-là?
Oui, publicité
elle
jetait
dans la valise, elle le fermait. Ouais, ouais, tu ouais. Dis, si on fait ça à une femme, ça, oublie ça, là, ça marche pas dans la publicité. Tu parlais de ça. Tu fais pas ou t'as le numéro que t'as joué,
ce gag-là, je suis pas sûr que je l'avais gardé ou si je l'ai fait. Mais moi, je me rappelle un des gars que je disais.
Tu confonds avec Mike Ward.
Non, c'est vraiment Laurent.
Non, j'avais un numéro là-dessus. Je dis, pourquoi c'est les gars tout le temps qui ont l'air cave dans les publicités à télévision?
Mais tellement.
Tu parlais de ça. Tu parlais de ça.
L'exemple de voyons, la fille qui l'annonce de gomme extra qui dure extra longtemps, là, puis tu vois la fille qui mange sa gomme puis elle est contente parce que le goût dure longtemps.
Les gars sont en bobette.
Puis là, regarde son chum à côté, puis on l'entend dire dans sa tête, la fille, elle dit « Ah, si seulement tout pouvait durer aussi longtemps. » Fait que là, je dis « Ah, ça, c'est drôle, ça. Tu ris d'un gars qui vient trop vite. » Mais si l'inverse avait été... Puis là, je disais, le gars que je disais, c'est une pub de pizza qui est livrée en moins de 30 minutes. Puis le gars, il, à la fin de la pub, il dit « Ah, si seulement tout pouvait venir en moins de 30 minutes. » Je suis pas sûr que ça aurait passé.
C'est très drôle.
Oui, c'est ça. Mais c'est exactement... Tu te souviens pas, mais tu disais la fille...
Mais j'ai dû donner cet exemple-là.
Oui, t'as donné cet exemple-là. Et je me disais...
Je suis pas sûr que j'avais un bon gag avec ça, mais si je l'ai coupé, c'est sûrement parce que j'avais pas trouvé un bon gag. Mais oui, c'était Marcel Lebeuf puis Charlotte Laurier dans le temps. La pub commence, c'est ça, puis le gars, il va embarquer dans le char, puis la fille...
Très drôle.
Tu vas embarquer dans mon char, c'est dans le coffre. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient réagi à ça en disant crime. Là,
c'est... Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, Spike Lee il s'est battu en disant il voulait faire un film. Hollywood voulait faire un film sur Malcolm X. Spike Lee avait dit ça prend un noir pour faire un film sur Malcolm X. Mais tu sais, moi, j'ai vu plein de films contre le racisme. Puis ont été, tu sais, les grands films contre le racisme dans les années 50-60 aux États-Unis, c'était Norman Jewison. C'était un juif de Montréal qui avait réalisé ça avec Sidney Poitier.
Mais Sidney Burning, c'était comme, qui avait réalisé ça?
C'est comme, tu peux être blanc puis être sensible à la cause des Noirs.
Ouais, tout à fait.
Pourquoi c'est lui qui faisait ces films-là? C'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais voulu financer des cinéastes noirs non plus. Tu comprends?
Peut-être qu'ils sont pas arrivés avec
l'histoire. Il n'est pas à l'écran, il est avant que le film se fasse.
Mais peut-être qu'il n'est pas arrivé avec le scénario. Il n'y a aucun Noir qui a réglé le scénario. C'est-à-dire que...
Lui disait, ça prend un Noir pour faire un film sur Malcolm X. Non.
Comme ça prend pas un Allemand pour faire un film sur Hitler.
Ben non.
C'est absurde parce que toute la qualité du multiculturalisme, puis moi je le déteste le multiculturalisme, s'il y en a une, c'est ça. C'est qu'on s'influence l'un l'autre, on s'inspire l'un l'autre.
Le métissage.
Tu sais, ça c'est intéressant. Tu dis, dans cette culture-là, je vais aller chercher ça. Robin Lepage qui s'intéresse aux Noirs, ou tu sais.
Mais si Bonifacie, moi j'en suis pas encore revenu à cette affaire-là.
Puis le fait que Robin Lepage après dise, ils avaient raison, finalement, il tire dans le dos de ceux qui l'ont protégé, tu sais, puis l'ont défendu, c'était hallucinant, tu sais. Mais sauf que c'est ça. Moi, je trouve que le métier de comédien, c'est se glisser dans la peau de l'autre. Si t'enlèves ça, il n'y a plus rien. Fait que moi, je vais juste jouer des blancs, 50 ans, comme moi, c'est-à-dire des sexes symboles.
Mais moi, je suis d'accord qu'on favorise un peu.
Très drôle.
Mais moi, je comprends qu'on favorise. Par exemple, si on se fie à la... Tu sais, l'exemple des fois qui me vient, c'est la LNI, mettons. L'impro, c'est 6 joueurs par équipe. Ben, à l'époque, c'était 6 joueurs. C'est 3 femmes, 3 hommes. Mm-hmm. On se demande pas
Dans la LIM, c'était pas ça. Dans la LIM, c'était une femme ou deux.
Ouais, mais c'est devenu.
Selon leur talent.
Mais maintenant, c'est devenu assez rapidement égalité homme-femme dans pas mal toutes les ligues. Puis.
Mais les filles, des fois, jouent des rôles de gars, puis les gars, des fois, jouent des rôles de filles.
Ah oui, ça, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on le sait que les meilleurs improvisateurs, c'était Claude Laroche, c'était Denis Bouchard, c'était Marcel Lebeuf, c'était Michel Rivard, et t'avais Sylvie Legault, t'avais Pierrette Robitaille.
Edith Cochran, c'est une simonac
de bonne. Moi, je parle d'il y a longtemps.
Okay, la meilleure joueuse d'impro de toute l'histoire de l'impro, elle pas très connue, c'est Sophie Caron. Sophie Caron, c'est la meilleure joueuse d'impro de toute l'histoire de l'impro.
Mais je pense que si il avait pas obligé la parité à la LNI, peut-être que...
Ces talents-là n'auraient pas émergé.
Il y a des talents qui n'auraient pas émergé, je pense, parce qu'on l'a un peu forcé. Puis, il y avait des joueuses qui étaient vraiment pas très bonnes. Jeannette Bertrand a joué à la LNI. Charlotte Laurier, qui était une extraordinaire actrice, mais qui était une improvisatrice médiocre. Ah. Tu sais, on le sait. Fait que des fois, ça faisait des impros vraiment border malaisantes. Là,
mais on s'est connu l'impro.
Au final, ça, aujourd'hui, il n'y a personne qui remet en question la parité homme-femme. Mais au début, tout le monde disait, bah, c'est une fille qui commence l'impro, ça va être moins bon. On a hâte que Claude Laroche rentre, puis on a hâte que Marcel Leboeuf rentre.
Claude Legault rentre, Claude Bossé.
Mais aujourd'hui, la LNI, les gars...
Normand Brathwaite. Normand qui
arrachait tout.
Mais
aujourd'hui, un gars ou une fille qui commence une impro à la LNI, excuse-moi Richard, les gens ont pu se préjuger là. N'importe qui est capable de leader une impro maintenant à la LNI.
T'sais. Est-ce que tu as besoin d'un festival, des films, mettons des gens maigres de 60 ans et plus qui sont non-binaires pour essayer d'avoir un prix.
Xavier Dolan a eu un prix d'un festival de films gays, puis je suis désolé, merci beaucoup, mais je me considère pas comme un réalisateur gay.
Non, c'est ça.
Je me considère comme un réalisateur.
Il faut l'accepter à l'intérieur.
Il se trouve qu'il est gay, mais c'est
dans ce cadre-là que c'est vrai.
Mais moi, je pense que c'est un peu de l'orgueil de Dolan. Il voulait juste pas être dans quelque chose qui est considéré comme une sous-catégorie. Il veut être réalisateur.
Ben, c'est normal. Mais, c'est normal. C'est ça.
Mais c'est normal. Mais en même temps, c'est normal que la communauté gay dise on a envie de souligner ton travail. Puis on va, Christy, ça paraît que le réalisateur est gay. Tu vois ce qu'il fait. Tu dis c'est un réalisateur. Quand t'apprends que le réal est gay, c'est pas surprenant. Tu tombes pas des nues en disant « Oh my God, ça aurait pu être n'importe quel réalisateur hétéro. » Non, c'est clairement un réalisateur
gay. C'est pas
gay,
ça. C'est parce que son film équivaut à n'importe quel autre film. C'est pas un film qu'un sexe, tu sais. C'est une œuvre d'art. On peut pas la mettre dans un coin et dire « C'est une œuvre féminine. » C'est ça qu'il veut dire. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est comme toi, par exemple. Si tu recevais un prix, humoriste, admettons, chauve.
Oui,
mais c'est la meilleure humoriste chauve.
Oui,
ça
mais les
quoi,
chauves ne sont pas discriminés. Tu comprends, c'est normal qu'il y ait un désir. sexuellement, un peu quand même.
Un peu.
Mais sinon.
Moi, puis Charles, on est bon là-dessus, on a des cheveux.
C'est normal qu'on fasse des affaires pour mettre la lumière sur des gens. Là, tu vas dire, oui, mais y est-tu bon, son film, ou il n'est pas bon, ou il est juste bon pour un gars qui fait des films en tant qu'homosexuel? Oui, mais c'est normal qu'il y ait, pour moi, des festivals de films gays. C'est normal qu'il y ait un festival de cinéma africain ou un festival de musique autochtone. Tu comprends-tu?
Tout ça doit exister. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je dis, là, c'est que dans la recherche et développement, il faut fournir tout ce qu'ils ont besoin comme levier pour les arts qui sont minoritaires.
C'est quand l'un est au détriment de l'autre.
Ouais, c'est ça. Puis qu'on les amène, mettons, qu'une femme puisse après être au même festival de films qu'un homme, puis gagner un prix. Tu sais, je veux dire, je voudrais pas qu'elle gagne juste un prix parce qu'elle est femme. Je voudrais qu'elle gagne un prix parce qu'elle est bonne. Je voudrais pas qu'un gars gagne juste un prix parce qu'il est gars, tu sais.
Comme là, regarde, les pâtes viennent d'arriver. Bon, il y a trois plats de pâtes avec de la sauce blanche, puis un plat avec de la sauce rouge. Ben pourquoi? Parce que avant on faisait deux plats de sauce blanche, deux plats de sauce rouge, puis personne mangeait la sauce rouge.
Tout le monde préfère.
J'avoue que la sauce blanche a l'air meilleure.
A l'air plus cochonne. Dis-le donc,
c'est probablement de la crème, donc c'est plus gras, donc plus cochonne.
Donc, on aime plus ça.
Les champignons sont bons.
Tu me passes un peu de vin blanc.
Blanc ou rouge?
Ben, pour moi, blanc, mais pour...
Moi, c'est sûr, avec des pâtes, c'est du rouge.
Bon, on n'a même pas trinqué depuis qu'on est arrivé. C'est pas normal. Donc, trinquons à nous.
L'égalité de toutes et de tous.
L'égalité de tous.
J'allais dire aux critiques.
Ouais, aux critiques.
Aux critiques.
D'ailleurs, toi, avant, Stéphane, tu faisais une chronique à la radio qui était la critique des critiques. Tu lisais les critiques et tu faisais une critique des critiques.
Je me rappelle pas.
Puis je me
de
demandais
ça.
Comment c'était reçu par les critiques. En as-tu déjà entendu?
Très mal.
Parce que
moi, j'ai une histoire avec Richard là-dessus.
Tiens, prends la cuillère, ça va mieux fonctionner.
Parce que moi, Richard s'en souvient pas, mais on a une histoire là-dessus.
Moi, ma théorie, c'est qu'il y a personne qui prend moins bien la critique.
Que la critique. Quand je faisais la critique avec Nathalie Petrovski dans la CKVL, c'est ça? À l'époque, c'était Bonjour Montréal, je pense que ça s'appelait.
Très drôle.
Et l'idée que j'avais eu, c'est un concept qui a vraiment fait un petit... Mais on a une histoire là-dessus, mais tu t'en souviens pas. Mais c'est assez positif à
tu
ton égard.
Tu la raconteras après.
C'est que j'allais voir les shows en même temps que les critiques. J'attendais que toutes les critiques sortent. Puis je relevais dans les critiques les aberrations. Ça, c'est pas arrivé. Il a oublié de mentionner qu'il y avait eu 4 ovations debout. C'est pas vrai, le public a embarqué. Je poignais, donc je faisais la critique des critiques. Puis j'allais même jusqu'à la phrase est mal formulée. Moi qui fais plein de fautes d'orthographe. La phrase est mal formulée, là on comprend pas l'idée. Je faisais ça. Et à l'époque, Richard, puis ça c'est tout à ton honneur. Tu vas te souvenir de cette anecdote-là, mais là tu t'en souviens pas parce que le temps a fait ses ravages. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, un texte d'Archambault. C'est Archambault? François Archambault, qui est critiqué par Luc Boulanger.
Il y a une bonne critique, mais il dit, enfin, Archambault a coupé dans son texte, Q-sec, c'est meilleur, là, ça a du rythme, enfin, parce qu'à Création, c'était pas bon. Moi, je l'avais vu à Création, puis j'avais trouvé ça excellent, puis c'était, selon moi, le même texte. Fait que là, j'appelle Archambault, je dis, t'as-tu coupé dans ton texte? Jamais. J'ai dit que t'as changé plein d'affaires. Pas vrai. J'ai dit, donc, il a pas fait son travail de critique? Non. Fait que moi, j'arrive à...
Avec Nathalie Petrovski?
À Nathalie Petrovski, j'ai dit ça. Et là, toi, t'es fâché. Tu m'appelles. C'est une super histoire.
La fin.
Oui, tu vas t'en souvenir. Et là, tu me dis, ça n'a pas d'allure, si tu descends en critique. J'ai dit, là, tu m'as écrit un papier pour un peu descendre le fait que j'avais fait la critique des critiques. Connaissez-vous Stéphane Roy, blablabla. Et moi, je t'ai écrit ensuite un papier long, mais long, qui durait une page complète, où je te descends, je descends Luc Blanger, puis je fais des gags là-dedans, et toi, tu le lis, tu trouves ça drôle.
Et tu le publies.
Tu m'appelles, puis tu dis, si je corrige les fautes d'orthographe, je vais le publier intégralement. Es-tu d'accord? Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours un énorme respect pour toi.
C'est très drôle.
C'est parce que je trouve que tu es capable autant de faire la polémique que d'assumer la polémique. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, là, c'était tout à mon avantage d'être publié première page du Voir, là, quand on ouvrait la page, là, c'est en bas. Là,
ouais, les trucs d'opinion.
Ouais, les trucs d'opinion. Puis tu l'avais publié intégralement, cette histoire-là. Ah. Puis c'était pas à ton avantage.
Tellement
du tout.
Drôle.
Fait que j'ai fait. Ce gars-là, il est
mais
bon
j'ai
joueur.
J'ai toujours aimé les gens qui brassent la cage.
Puis là, j'ai trouvé que t'étais bon joueur, t'étais juste, t'as pas enlevé les mots, t'as pas changé rien. Puis c'est un texte assez virulent à son égard, à l'égard de Luc, que maintenant je me suis réconcilié avec.
J'espère, mais, parce que...
Mais tu sais, les histoires ça, d'horreur de critiques... Moi, tout le monde a entendu c'est parler drôle. D'histoire d'un critique qui a fait une critique de show qui a pas eu lieu finalement, mais le gars, ouais. Il avait écrit sa critique avant, il est pas allé au show, puis le show finalement avait été annulé, puis il a écrit une critique le lendemain. Tout le monde connaît l'histoire. Moi, j'ai été chanceux. Dans mes shows, là, pour vrai, là, j'ai eu des critiques vraiment positives. Mais je te dirais, mes deux premiers one-man shows ont eu chacun leur critique épouvantable. Tu sais. Puis il y a le deuxième show,
j'espère
la critique épouvantable, c'était quelqu'un qui était sous dans le...
Non!
Le gars avait dormi pendant mon show, il sentait le fond de tonne, je le sais parce qu'il était assis à côté de ma sœur.
Il travaillait pour la presse.
Ah!
Je veux pas nommer de gens, mais ma nièce...
Non, mais je vois tout ça, c'est qui?
Écoute,
on
ma nièce...
On va donner juste des initiales.
Ma nièce était à côté, puis elle dit à sa mère, qui est ma sœur, elle dit, « Maman, le monsieur, il pue. » Et ma sœur m'a dit, « Il sentait le fond de tonne. » Et un autre journaliste m'a dit, « Oui, je l'ai vu dormir pendant le show. » Et le lendemain, il plantait mon show. Puis en fait...
Il s'était endormi.
Et moi, si j'avais répliqué à cette critique-là, je me serais fait dire, bon, les vedettes qui prennent pas la critique. Parce qu'on dirait que c'est ne pas prendre la critique, c'est comme si c'était un défaut épouvantable. Tu fais, ben voyons, si je suis pas d'accord...
T'as le droit de répondre.
Qui a dit que la critique est un jugement sans appel?
Il y a un problème fondamental au Québec. Puis avant, j'appelais ça le syndrome L'Express. Puis aujourd'hui, en 2019, il faudrait que je trouve un autre nom de restaurant, mais j'appelais ça le syndrome L'Express parce que... À une certaine époque, là, les plus jeunes comprendront pas, là, mais tout le monde se retrouvait à l'Express.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'était toujours gênant de dire « je vais faire une critique hyper raide du dernier livre ou du dernier film ou du dernier... »
Puis je vais le croiser.
Puis je vais aller m'installer à l'Express, puis la personne dont j'ai fait une critique absolument terrible se retrouve à la table à côté. Et donc, j'appelais ça le syndrome L'Express.
Moi, j'appellerais ça le syndrome du Canadien de Montréal.
Canadiens
de Montréal, les chroniqueurs de sport, ils soupent avec eux autres, ils vont golf avec eux autres, ils ont toujours de la misère à critiquer Bergevin parce que c'est leur chum, mais s'ils leur payent le resto.
Oui, mais dans le cas du théâtre, mettons qu'on prend le problème inversement, parce qu'on va dire des fois, le gars, il voudra pas être trop dur parce que s'il croise les artistes après ça, il va se sentir mal devant les artistes. Mais en même temps, de l'autre côté, le gars qui voit pas les artistes, qui fréquente pas les artistes, moi, j'ai l'impression des fois que c'est l'inverse. Le gars, il pense juste à son style. Ah, j'ai trouvé une belle tournure de phrase assassine. Je vais la mettre. Puis des fois,
t'as tellement raison que des fois on choisit.
Puis le gars, s'en calisse parce qu'il sait qu'il croisera pas l'artiste. Hein? Fait qu'il dit si moi j'ai trouvé une belle image qui va vraiment fesser d'un dent.
C'est tellement vrai que le titre de nos shows. Souvent, quand on brainstorm avec les producteurs, ils disent « Non, c'est un critique va vouloir faire un jeu de mots avec telle phrase, tel mot pour dire, admettons, pour lancer sa critique, ça va être trop facile. » Fait qu'on brainstorm les titres de show en se disant comment le critique pourrait revirer ça pour avoir de l'air brillant.
Tu sais, Nathalie Petrovski, elle a fait une critique de Detect Inc. Tu sais, l'émission de Claude Meunier.
Ouais.
Elle avait trouvé le titre Detest Inc.
Ouais. Et elle était tellement fière d'avoir trouvé Detest Inc.
C'est ça, je te dis.
Qu'elle l'a écrit, c'était le titre de sa critique. Puis plus tard, elle a dit, c'était pas si mauvais que ça, là. Mais elle était tellement fière d'avoir trouvé.
Ça l'a motivée.
Elle a aimé sa formule méchante et assassine. Et j'ai l'impression que des fois, dans le cas de certains critiques qui vivent dans des tours d'ivoire, qui eux ne fréquentent pas les artistes, eux, ils sont déconnectés du monde et ils s'en calissent.
J'ai vu cette semaine, je suis un fan de cinéma, et j'ai vu un film très peu connu de Bergman qui s'appelle « Toutes ces femmes », OK, au début des années 60, qui a fait juste avant Persona, qui est son grand, grand, grand chef-d'œuvre. Alors, il voulait régler des comptes avec les critiques. Donc, il monte un critique dans ce film-là.
Toujours mauvais, ça.
D'ailleurs, c'est son pire film en carrière. Ah oui,
c'est toujours mauvais,
ça. Le dit.
Régler des comptes,
un critique
c'est jamais
très prétentieux. Un critique très prétentieux et tout. Bergman, sa carrière, il la doit aux critiques. Les Suédois détestaient les films de Bergman. Ils ne vendaient pas de tickets. Ils ne marchaient pas. Mm. Il fonctionnait, Bergman, grâce aux critiques qui l'ont porté au nu et qui a fait qu'il y a eu une carrière internationale. Mais les Suédois n'ont jamais trippé sur ces films-là.
Comme Woody Allen.
Et là, tu dis, OK, ouais, là, une fois, il y a eu une mauvaise critique. Il en a fait un film parce qu'il n'en pouvait plus. Mais ce gars-là, il devait sa carrière aux critiques.
C'était peut-être quelqu'un des plus vaches aussi. Désolé, je ne connais pas Bergman. Oui, je ne sais pas comment il était.
Dans la vie de tous les jours avec ses femmes, et ses enfants, il était insupportable.
Buvable. Picasso est un buvable.
Mais monsieur, tu sais...
Léo Ferré, il paraît que c'est un trou de cul.
Avec
le temps, on va tous en bas.
Oui, mais... Pas sûr qu'il appliquait ça à tous les aspects de sa vie.
Pas sûr nécessairement.
Woody Allen... Ça me fait... Moi, j'étais un fan de Woody Allen, mais solide. Là.
Moi, j'étais un grand fan aussi.
Il
y a beaucoup de films. Les derniers films que j'ai vus...
Le dernier, c'est un chef-d'œuvre.
Pour moi, le dernier que j'ai vu...
Mais ils veulent pas sortir en Amérique.
Celui qui m'a fait triper, c'est Deconstructing Harry. Moi, c'est le film que j'ai trouvé... Dans les plus récents, que j'ai trouvé vraiment les plus intéressants.
Très bon.
Est-ce que, parce qu'on sait même pas, là, est-ce qu'il a vraiment agressé sa fille ou pas, mais...
Ouais, parce que il est acquitté en cours à New York, il est acquitté complètement.
Ça s'est même pas rendu en cours. Il y a eu deux enquêtes de police et les deux ont dit que c'était non concluant.
Ça a été acquitté. Tout le monde surfe sur une histoire qui est pas.
Dit que ça vaut même pas la peine de porter des accusations. C'est pas suffisamment solide. Donc,
mais Ronan Farrow, qui est le fils donc de Woody Allen et de Mia Farrow, et qui est celui qui a sorti l'affaire de Harvey Weinstein. Lui, il maintient dur comme fer, il croit sa sœur et il est convaincu que son père, Woody Allen, a agressé sa sœur. Donc là, après, qui tu crois? Mais mettons qu'il le fait. Mettons qu'on statue aujourd'hui, il l'a fait. Attends juste une seconde. À partir de ça, tu fais quoi?
Ouais.
Tu vas dans ta bibliothèque de DVD, tu prends tous les Woody Allen, tu les calises dans le feu?
Mais non.
Ou tu dis, regarde... Je veux dire, indépendamment de ça, ce gars-là, il a fait des chefs-d'œuvre. Je revendique
mais
le droit.
C'est un choix que tu fais avec ta propre conscience. Mmh. Moi, ce qui va me gosser, c'est quand les gens ont leur conscience et ils veulent t'imposer la même chose, tu sais. Mais il y a un débat quand même intéressant à trouver. Tu sais, moi, si mon boulanger bat sa femme, je vais pas aller chez lui en me disant, oui, mais il fait tellement de bonnes baguettes, là, tu sais.
T'as tellement raison.
C'est intéressant, c'est ton exemple.
Ça, c'est très bon, mais il y a la proximité. Le boulanger est à côté de chez toi, tu sais, Woody Allen. Mais effectivement, quand tu regardes un film de Woody Allen, tu payes des billets, tu apportes de l'argent.
Tu lui donnes de l'argent. Roman Polanski, la même chose. Tu sais, Bertrand Cantat.
Mais Polanski,
ça, c'est une rencontre que j'ai faite à New York.
T'as-tu rencontré Woody Allen?
Oui, pour mes 40 ans. Là, je suis un peu bouffi. Je revenais de mon accident d'auto.
Ben, t'as l'air moins magané que lui,
Oui. Puis j'étais sur la codéine, en fait.
Écoute, moi, quand
je suis gonflé, là.
Alors, tu l'as vu, quoi, son bar de jazz?
Ouais, il a joué, après on s'est parlé, j'ai passé pas une heure totale, mais presque une heure avec.
Parlé?
Ouais.
À Woody Allen?
Ben moi, pour mes 40 ans, j'étais sur la morphine, là.
Hein?
Je me suis dit...
T'avais peur de rien?
Je veux rencontrer tout le monde que j'ai voulu rencontrer dans ma vie. Je suis parti à New York avec un ami, j'ai rencontré David Letterman, Jim Carrey, en une fin de semaine, en 4 jours, puis Woody Allen le lundi, puis on a pris l'avion le mardi. C'était incroyable.
Est-ce que t'as été déçu? Parce que des fois...
Non, pas du tout.
Il faut pas rencontrer ces idoles parce que des fois, on est déçu.
Pas du tout.
Moi, j'ai fait une entrevue une fois par téléphone avec Spike Lee puis il était tellement chiant, là.
Non, moi j'ai été déçu de moi.
Il dit que je ne rencontrais pas.
C'est que j'étais tellement d'invap de le voir, puis on avait bu, j'étais sur la morphine, tout ça. Il me demande, c'est quoi ton film préféré de moi? Capable d'y répondre. Je suis allé sortir Match Point, qui n'est pas mon préféré.
C'est vraiment pas le meilleur!
Non, c'est pas le meilleur! Mais j'étais nerveux, j'étais comme... Il est bon.
Attends une minute, il a dû capoter parce que je crois que c'est un de ses films préférés que lui a fait.
De sa propre filmographie.
Il a tout le temps dit qu'il tient pour Match Point comme un de ses...
Ce que j'aimais de Match Point, c'est l'idée que le hasard peut jouer dans la fatalité de la vie.
Oui, mais il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait. Matchpoint, c'est un replay de Crimes and Misdemeanors.
C'est le même, le crime parfait, puis tout ça. Puis il l'a fait dans, avec Joaquin Phoenix, il a fait un film.
Oui, l'affaire sur l'eau.
Le professeur.
Le professeur d'université.
Le professeur d'université qui tue quelqu'un, puis c'est comme le même film qu'il a fait
trois fois. Mais c'est intéressant parce que Woody Allen
a fait... Est-ce qu'il y a un crime à cacher?
Ben c'est ça. Woody Allen fait trois films qui racontent l'histoire de quelqu'un qui commet un crime.
Parfait.
Ou qui commet des gestes impardonnables.
Puis qui s'en sort et qui est heureux.
And who gets away with it.
Il s'en sort et
est heureux. Oh my God! Je vais relire ça différemment.
Mais c'est le genre de discussion qu'on a chez les Durocher-Martineau.
C'était intéressant. Mais là, s'il fallait analyser les personnes en fonction de leur œuvre.
Si tu étais proche, mettons, proche ou de loin de Gilbert Rozon, quand les allégations voient le jour, tu fais quoi? Tu dis, mais j'en tiendrais pas compte parce qu'il faut séparer la compagnie Juste pour rire et les allégations contre le gars. Ou tu dis, moi, je veux plus rien savoir de Juste pour rire.
Quand j'ai su que Gilbert... Moi, ça s'est passé bien vite, moi, mon affaire. Je jouais dans Demain matin, Montréal matin. Avant le show, mon gérant m'appelle pour me dire « Fais pas le saut ».
Guy Lévesque.
Guy Lévesque, mon gérant, qui est ancien bizarroïde, ancien collègue de Stéphane. Et il me dit « Fais pas le saut, Gilbert va démissionner probablement, ils sont en comité d'urgence, ils se réunissent. Il y a des allégations d'agression sexuelle, puis d'attouchement, puis des plusieurs personnes, donc fais pas le saut, il va avoir une conférence demain, ou je sais pas trop ». Puis finalement, pendant le show, il y a quelqu'un, un technicien, je suis en train de me changer en coulisses, il me dit, as-tu ça pour Rozon?
T'es en train de mettre tes talons hauts avec tes bas.
Je suis en train de les enlever, en fait. Je suis en transition entre mon personnage de travesti qui s'habille en homme, là. Et pendant que je suis en coulisses, ouais, t'as-tu vu ça? Gilbert Rozon vient de démissionner, là. Je l'ai appris, puis là, je rentrais sur scène après ça, moi.
Incroyable.
C'est de même que je l'ai appris. Mais moi, quand je l'ai appris, mon réflexe, ça a été d'abord de croire les accusations.
T'étais-tu surpris?
Ouais. Non, c'est ça qui est plate. C'est qu'on n'est pas surpris.
Personne n'était surpris.
Personne n'était surpris.
On était
surpris.
Cave un peu.
Hello,
c'est une affaire.
Ouais, mais Gilbert, si les accusations ne sont pas reçues en cours, pour moi, c'est vraiment pas. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit. Ça veut juste dire qu'ils savent que ça ne donne rien d'aller en cours, ils vont perdre. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment. Je voyais Gilbert comme quelqu'un qui avait eu sa leçon puis tout ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime croire à la rédemption. J'aime penser.
C'est un bon.
Chris, sinon, ça sert à quoi de vivre? Tu sais, tu comprends-tu? Il faut espérer que l'humain s'améliore un peu. Il faut, tu sais, mettons, quelqu'un dirait, finalement, moi, Donald Trump, qui est une des personnes que je déteste le plus au monde, si on me disait, il a finalement décidé de faire des mesures sociales, puis fuck, il ramène les soins de santé pour tout le monde, ben, je dirais, ben bravo! Bravo, Trump! Bravo! Je suis content, il a changé, il a compris quelque chose. Je crois qu'une personne que je désapprouve peut changer. Je crois qu'un criminel peut changer. Je pense que quelqu'un qui a tué peut revenir et retravailler. Et je peux, tu comprends-tu? Tu sais, mettons Louis C.K., là, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il revienne.
Il a recommencé.
Il a recommencé.
Mais tu comprends-tu qu'il a recommencé dans la controverse? Il s'est fait crier des affaires sur scène.
Mais tu l'aimes-tu, Louis C.K., toi?
Ben, c'est le meilleur humoriste
au monde.
C'est
le meilleur
humoriste au monde.
C'est génial. C'est donc... humoriste américain qui, il y a plusieurs personnes qui ont dit, ben là, il s'est masturbé devant moi. Ouais. Puis, non,
en
mais.
Fait, je crois que. Écoute, là, tu vois, j'embarque d'un dossier que je maîtrise pas. Filles, il l'a fait. Il y a deux filles qui ont porté plainte.
Ouais.
En disant qu'il s'est masturbé devant elle.
Ben, Sarah Silverman, que tu connais.
Ben qui est une humoriste
qui est sa grande chum.
Elle dit, il l'a fait devant
elle
moi.
Elle donnait une entrevue, elle dit, il se masturbait régulièrement devant
tout
moi.
Il était tout le temps.
Mettons, mais il faisait ça. Donc, il le faisait régulièrement. Il faisait ça devant Sarah Silverman, qui était sa chum.
Non, mais la question n'est pas est-ce qu'il l'a fait ou pas fait. Alors que dans le cas de d'autres personnes...
on sait qu'il l'a fait.
Mais bref, bon, là, il est de côté, il revient. Moi, j'adore comme vous, je trouve que je
c'est capote. C'est le plus brillant.
Brillant.
Mais je trouve avec, que le plus
décidé avec de qui de
revenir. Avec Salvaire, pourrais-tu revenir?
Moi, je pense que oui, parce que... en tout cas, moi, j'ai connu Eric de proche,
les valeurs de Sucré Salé.
Et moi, il m'est arrivé une histoire avec Eric Salvaire, OK? On était en montage Sucré Salé. Moi, je suis en montage dans une pièce. Lui, il est en montage dans une autre pièce. Lui, il est arrivé, c'était dans ma pièce. Puis, je venais d'arriver des 400 coups de Télé-Québec. Puis là, il a sorti sa queue, puis il l'a collé sur ma cuisse, t'sais. Puis, il a dit, « Stéphane Roy de Télé-Québec, il est là! » Puis là, puis moi, je suis parti à rire parce que... Dans le domaine de l'humour, puis des bizarroïdes, puis du mime, on faisait des niaiseries de même tout le
écoute,
temps.
Écoute, Stéphane,
Donc, je suis parti à rire. Il a ri avec moi, il a levé, puis il est parti. Fait que j'ai jamais... C'est quand les histoires sont sorties, j'ai fait... OK, donc, il faisait ça sérieusement, peut-être, tu sais, mais je le savais pas
mais
à
toi,
l'époque.
Attends,
toi, tu t'es
pas senti agressé quand
tu l'as fait. Je suis tellement parti à rire. Tu sais, dans les ligues d'impro, là... peut-être que t'as pas connu ça, mais à l'époque du mime de Montmorency,
un gars
qui sort sa graine dans un party, l'autre qui tape, usual, là. Okay. C'était usual, on faisait semblant de s'enculer.
J'étais rédacteur en chef de Voir. Et je m'occupais aussi de Voir Québec. Il y avait un Voir à Québec.
Mais c'était peut-être des mauvais comportements, ça, c'est là.
J'allais à Voir Québec et il y a un gars qui était un vendeur de publicité. Et sa joke, c'était ça, c'est que quand moi, mettons, j'étais... Mais tout le monde faisait ça,
tout le
monde.
Il mettait sa queue sur ton épaule.
Il mettait sa queue sur mon épaule. Et là, tout le monde riait, là, j'entendais les gens rire, là. Mettons, il s'appelle Marcel. Marcel. Puis là, je voyais sa queue sur mon épaule. Puis là, je me retournais, tabarnak, Marcel, tu sais. Là, tout le monde riait. Puis c'est la joke. Marcel montrait sa queue. Bon. Il faisait ça régulièrement.
C'est con. Et aujourd'hui, c'est déplacé.
Non, mais c'est con.
C'est déplacé.
C'était la joke qu'il faisait. Ouais. It was between boys, là. C'était, tu sais, c'est comme. Il sortait sa queue tout le temps.
Mais c'est justement ça le problème. It was between
them. Ouais.
Ben,
non, mais c'est pas acceptable. Mais c'est juste que
les gens riaient.
Je serais malhonnête de dire que.
Une joke de graine entre gars, on s'entend. Là. Pour moi, c'est pas pareil. Ça n'a pas la même force. Ça n'a pas le même pouvoir.
Moi, c'est
un. Tu comprends-tu?
Je pensais que c'était une joke de graine qui me faisait.
Ben, c'est une joke de graine, mais
c'était pas une joke de graine, en fait. Ce que je pense, ce qu'il faisait, c'est qu'il tentait quelque chose, tu sais.
Il tentait, c'est le cas de le dire.
Mais tu sais, si...
Il aurait aimé être tenté.
Si les allégations...
Si
les allégations sont vraies, puis là, on tu sais, on tout le temps au conditionnel, mais si, effectivement, tu montes ta queue, le gars veut sortir, puis tu bloques la sortie, puis t'es là, puis le gars peut pas sortir...
Là, on est dans l'agression.
On est parti à rire,
là, on est dans l'agression.
Mais c'est parce que... C'est pas parce que le geste, toi, t'a fait rire et t'as pas laissé de traces que le geste, il faut que tu sois capable d'admettre que chez quelqu'un d'autre,
ça peut traumatiser quelqu'un d'autre.
Ouais. Tu comprends-tu?
Tout à fait.
C'est comme l'intimidation.
T'as tellement raison.
Quand j'ai lu l'histoire de ton adoption, ça m'a fait triper. Parce que moi, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ta vie, de dire « je vais traverser la moitié de la planète, je vais faire 14 heures d'avion, puis je vais aller donner une deuxième vie à une petite fille ou un petit garçon. » Je te le dis, pour moi, l'adoption, c'est un des plus grands dons de soi qu'on peut faire.
Écoute, merci, je suis content que tu le vois comme ça. Personnellement, c'est plus un désir égoïste d'avoir des enfants.
Ah oui?
Égoïste. Oui, mais pas dans le sens négatif du terme.
J'aime ça comment il a dit ça.
Non, mais dans le sens que c'est pas moi, je vais rendre service à quelqu'un. C'est moi, je veux.
Ah, il y a ça aussi un peu.
Je veux un enfant.
Dans les enfants, il y a ça un peu. Il y a la continuité de nous, tu sais, le prolongement.
Mais
nous.
T'as pas un enfant pour rendre service à ton enfant. Parce qu'il est pas là. Il y a pas, tu sais. Mais, tu sais, tu veux des enfants parce que t'aimes les enfants. Parce que je m'imaginais pas vivre sans enfants. Tu sais, à la base, je voulais des enfants. Je voulais savoir c'est quoi avoir un petit gars qui m'appelle papa, puis jouer avec un petit gars. Quand je voulais une fille, parce que je voulais savoir c'était quoi élever une fille. Moi, chez nous, on était quatre gars chez nous.
Ouais, chez nous
puis,
aussi.
Fait que c'est pour ça, moi, quand j'ai demandé, il nous demande si on veut un sexe en particulier pour l'enfant. Mm-hmm. Moi, j'ai dit je veux une fille parce que j'ai déjà un gars, je veux une fille. Mais on le fait parce qu'on veut un enfant, hein. Puis que l'adoption, nous, ça a été difficile pour nous de procréer. Ça a été long avant qu'on réussisse à avoir mon fils. Puis ça s'enlignait pour être bien compliqué puis bien long pour avoir notre deuxième enfant. Fait qu'on a dit, garde, plutôt que de se bourrer d'hormones puis d'être malheureux puis de faire des fausses couches puis de brailler, on va se mettre sur une liste d'attente pour adopter. On voulait un enfant. On aurait pu l'adopter en Haïti, en Chine, en Inde. On voulait juste être sûr que notre enfant sera en santé parce qu'on n'est pas des parents. On voulait pas prendre soin. On avait peur de pas avoir les reins puis le cœur solide pour s'occuper d'un enfant qui arrive, mettons, des gros besoins physiquement. On voulait juste que ce soit un enfant en bonne santé. Puis on voulait idéalement que l'enfant soit le plus jeune possible, qu'il n'ait pas eu le temps
de vivre. Elle était toute jeune, donc vous avez pu la voir la première fois.
Quand on l'a vue, elle avait eu 9 mois. La première fois. Elle est née à l'hôpital et elle a été après ça directement à l'orphelinat. Donc, elle n'a pas été séparée d'une famille. Il y a quand même une séparation. La séparation reste toujours pareille dans la tête de l'enfant.
Oh oui.
L'enfant vit, même l'enfant s'en souvient pas, l'enfant, ça reste quand même dans sa tête. Le traumatisme, il appelle ça de la séparation. Mais c'est parce qu'ils aiment pas le mot abandon. Dans le domaine de l'adoption, ils aiment pas le mot abandon.
C'est l'abandon.
Parce que
c'est un mot négatif.
C'est un abandon, mais c'est que c'est très négatif de dire à ton enfant que t'as été abandonné. T'as mieux parlé d'une séparation. Puis t'essayes, même dans les affaires les plus dramatiques, t'essayes de faire que ton enfant, dans sa tête, son histoire, elle est belle. Tu sais, il faut pas que ton enfant se dise « Mon histoire, à moi, c'est une histoire triste et pathétique et j'ai été rejeté. » Tu sais, l'enfant, il faut qu'il se dise « Moi, j'avais une mère qui pouvait pas s'occuper de moi et qui a pris une bonne décision. »
La meilleure décision
pour moi, qui était de me mettre en adoption.
Okay, pense, c'est ça.
Ben oui, c'est ça aussi.
Mais
c'est aussi que pour que ton enfant se construise sur quelque chose de positif, il faut que l'enfant sente que son histoire est belle. Moi, ma fille, on a toujours le défi de l'attachement. C'est un enfant qui a un caractère difficile par moment. Elle a du caractère à la base, mais c'est aussi un caractère des fois difficile. Mais nous, on y raconte son histoire, elle sait d'où elle vient.
Pour ramener au début
On y a fait un beau livre avec toutes les photos de là-bas. Puis des fois, elle pose des questions. Elle dit, moi, quand j'étais en Russie, est-ce que telle affaire? Puis quand elle voit, mettons, une médaille gagnée par la Russie aux Olympiques, elle dit, comme moi!
C'est l'attachement patriotique.
Puis on y a fait un beau livre. On s'était fait un album photo. Les albums que tu fais, que tu commandes sur Mac, là,
tu t'envoies
ça en ligne, puis t'as le poste. Ça, c'est formidable, mais elle jouait tout le temps avec, elle voulait le voir. On en a imprimé un juste pour elle, parce qu'on voulait pas qu'elle brise. Fait qu'on a imprimé un, on a mis ça dans un cartable avec des feuilles souples, tu sais, des pages.
Elle regarde ça souvent.
Oui, puis elle a un coffre dans son garde-robe, puis des fois, elle veut juste qu'on le sorte. Puis elle regarde, c'est son pyjama.
Son petit
pyjama de quand elle était bébé. Puis,
mais comment t'expliques ça, qu'elle est si attachée à d'où elle vient?
Je sais pas. Je pense que les enfants ont besoin d'une histoire. Tu sais, mon fils, lui, on a des photos de ma blonde enceinte. On a des photos de ma blonde avec le bébé dans les bras. On a des vidéos de mon fils qui vient de naître il y a 24 heures, puis je le filme, tu sais. Ma fille, puis elle, c'est moi. Moi, c'est quoi mon histoire, moi? Toi, là, on est allé te chercher on a pris un avion, on est allé te chercher. On te voulait tellement, là, qu'on a fait un voyage de une journée au complet.
Ils sont allés trois fois.
Oui, trois fois en plus. Puis ça nous prenait quasiment une journée complète juste pour se rendre à Krasnoyarsk en Sibérie. Fait que quand on y raconte.
En Sibérie.
Oui, on est allé en Sibérie.
Tabouère.
Fait que quand on y raconte son histoire, on s'arrange pour que ça soit une belle histoire. Parce que, ultimement, nous, ça a été une histoire longue et pénible, mais c'est une histoire qui finit bien. Tu sais, fait que nous, tout ce qu'on dit, c'est quand on t'a vu, on t'a trouvé tellement belle qu'on s'est dit oui, c'est notre fille, il faut qu'on peut pas partir sans elle.
Peut-être que l'importance dans la vie, c'est que les histoires finissent bien.
Mais tu
l'envisages comment cette journée-là où, à un moment donné, Lisa va dire. Ben, je veux retourner en Russie, j'aimerais rencontrer ma maman.
On va y aller avec toi,
puis
on va la préparer psychologiquement. On va dire, faut pas que tu penses qu'en arrivant là-bas, tu vas te sentir chez vous, par exemple.
Ouais.
Parce que c'est bien différent, là. Puis là-bas, tout le monde parle russe, puis tu comprendras rien. Pour pas qu'elle pense qu'elle s'en va dans un monde.
Quand même, il y a des points communs, et là, c'est une très mauvaise blague, mais on a de la poutine. Boudoum, boudoum, là-dessus, pouf. Poutine.
OK, vraiment, là?
Poutine.
Je pense qu'on va couper ça au montage.
J'allais dire, on va-tu finir là-dessus?
Non, mais vraiment.
On devrait finir sur ma phrase sur l'histoire.
En humour, on se dit souvent, je finirai pas là-dessus. Tu sais, quand t'as pas un bon punch-out, là.
OK, essaye de nous trouver un meilleur punch-out que ça. Ben, Laurent,
je sais pas si on a peut-être pas besoin d'un punch. On vient de parler de
pas d'un punch, mais d'une vodka.
Oh! Et là, le générique part, la musique. Vous venez d'entendre.
Gilbert, approche-moi pas.
C'était Devine qui vient souper avec Richard Martin.
Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.